Avant de commencer le sujet de ce soir, on me pose cette question et j'y réponds tout de suite parce que sans doute au terme ça irait moins bien, ça nous permettra de mieux comprendre ce que nous allons voir maintenant. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, la correspondance des béatitudes évangéliques avec les dons du Saint-Esprit? Alors je vais vous donner ce que saint Augustin et saint Thomas nous ont dit en théologien, et nous essaierons ensuite d'essayer au point de vue philosophique de comprendre le point de vue de l'obéissance, le statut nouveau de la vertu d'obéissance dans l'éthique chrétienne. Ah, faites attention, ça marche. La première béatitude, bienheureux les pacifiques, correspond au don de sagesse. Les pacifiques correspond au don de sagesse. J'expliquerai après, si vous voulez, s'il y a des questions, je vous dis simplement la correspondance. On comprend comment le don de sagesse nous relie profondément à la volonté de Dieu, à la volonté du Père, et à ce point de vue-là, nous permet de vivre dans la paix. Puisque la béatitude des pacifiques, c'est justement être relié à la source profonde de toutes nos activités, qui est la volonté de Dieu sur nous, et par là, d'ordonner toutes nos activités. La béatitude, le don d'intelligence correspond à la béatitude des cœurs purs. La béatitude des cœurs purs. Le don d'intelligence. Parce que le don d'intelligence nous permet de dépasser les choses visibles pour atteindre l'invisible. C'est le propre du don d'intelligence. Et c'est en ce sens-là qu'il permet à notre cœur de vivre dans la pureté, dans la limpidité. Le don de science est rattaché à la béatitude, ou plus exactement, la béatitude de ceux qui pleurent se rattache au don de science. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Je ne peux pas dire que les scientifiques sont grincheux, mais c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire que, tout simplement, le don de science nous fait pleurer, parce que le don de science nous montre la relativité de tout ce qui est d'ordre humain par rapport aux choses divines. Et facilement, nous nous arrêtons aux choses humaines, surtout à ce que l'homme a découvert. Toujours, une mère considère que son enfant est toujours le plus beau de tous les enfants. Et lorsque nous inventons quelque chose, nous considérons que c'est la chose la plus intelligente qui n'a jamais été créée au monde. C'est toujours un peu comme ça, il faut bien le reconnaître. Et alors, par le fait même, nous nous arrêtons à cela et nous avons beaucoup de peine de nous élever jusqu'à Dieu. Et le don d'intelligence, le don de science, nous fait comprendre la relativité de tout ce qui est humain et de tout ce qui provient de l'homme comparativement à l'absolu de Dieu. Et il nous fait pleurer parce que nous nous arrêtons si facilement à ce qui provient de nous. Alors il nous fait pleurer, ce que les spirituels appellent le pantos, au point de vue proprement grec. C'est un mystère de compassion, d'attitude intérieure qui nous fait pleurer par rapport aux choses humaines qui, à la place d'être des tremplins vis-à-vis de Dieu, deviennent des murs qui arrêtent. Et c'est ça, proprement, la béatitude de ceux qui pleurent. Puis vient le don de conseil. Bienheureux les doux. Le don de conseil vient purifier notre prudence et permet à la prudence d'avoir un exercice tout à fait divin. Et le don de conseil donne cette douceur évangélique, c'est-à-dire nous donne une adaptation merveilleuse à toutes les volontés de Dieu sur nous. Le don de piété, bienheureux les miséricordieux. C'est de nous faire comprendre que la miséricorde dépasse la justice. C'est toutes les relations que nous avons avec le prochain. À la place de vouloir en premier lieu la justice, nous comprenons qu'il y a quelque chose de plus grand, que la justice est dépassée par la miséricorde. Nous y reviendrons à cela. Le don de force. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le don de force, c'est le don de conquête. On entreprend les plus grandes luttes pour essayer justement d'établir de plus en plus l'amour de Dieu et sa justice. Le don de crainte, qui est la béatitude. Le don de crainte est à la source de la béatitude des pauvres. Alors il s'agit de la crainte divine, de la crainte chaste, aimante, qui fait que nous avons peur de mettre un obstacle à la volonté de Dieu sur nous. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette attitude de crainte aimante. Il ne s'agit pas du tout de la crainte mondaine, qui est la crainte du gendarme. On a peur d'avoir une peine, d'être pénalisé. Vous comprenez que cette crainte-là n'a rien à voir avec l'amour. C'est tout à fait différent. C'est la crainte du portefeuille. C'est qu'on a peur de dépenser quelque chose en plus, que c'est inutile. Alors ça, c'est une crainte mondaine, comme l'appellent les théologiens. Tandis qu'au contraire, la crainte chaste, c'est la crainte qui est à l'intérieur de l'amour. On a peur de déplaire à celui qu'on aime. Parce qu'on sait qu'on n'est pas tout à fait au même niveau d'amour, et alors on a peur de lui déplaire. Et c'est pour ça que la crainte conduit à la béatitude des pauvres. La béatitude des pauvres, c'est considérer que nous n'avons aucun droit et que c'est Dieu qui doit toujours passer le premier. Vous voyez qu'il y a là quelque chose de particulièrement intéressant et qui fait partie d'une grande tradition. C'est saint Augustin, je crois, qui est le premier qui a fait ce parallélisme. Il l'a développé plusieurs fois dans ses œuvres. Saint Thomas l'a repris. Avant saint Thomas, du reste, on l'avait repris. C'est pas saint Thomas qui l'a inventé. Albert le Grand l'avait déjà repris. Et saint Thomas l'a repris d'une façon plus précise. Alors c'est intéressant parce que ça nous fait comprendre comment les dons du Saint-Esprit qui sont révélés dans le prophète Isaïe, les dons du Saint-Esprit proviennent de la révélation d'Isaïe sur l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu, est rempli de la plénitude de l'Esprit. Du don d'intelligence et du don de sagesse, du don de piété, du don de force. Et alors, on énumère tous les dons. Et alors, le serviteur de Dieu, c'est le Christ. On considère que Jésus, il est revêtu de l'Esprit, de la plénitude de l'Esprit. Et c'est pour ça que dans le Christ et le bien-aimé, il y a les 7 dons du Saint-Esprit. Et que Jésus a vécu toute sa vie terrestre au niveau des béatitudes évangéliques. C'est du reste très beau, si vous êtes attentif à l'Évangile, vous voyez que les synoptiques Marc, Matthieu, Luc parlent des béatitudes évangéliques. Et vous voyez que Jean ne parle pas des béatitudes évangéliques. Alors on se dit, il l'a oublié. Non. Jean montre comment Jésus vit des béatitudes évangéliques. Et c'est pour ça qu'il l'appelle l'agapétos, le bien-aimé. C'est le fils bien-aimé du Père, et lui-même est le disciple bien-aimé du Père, de Jésus. Alors c'est l'agapétos, le bien-aimé. Vous voyez, l'agapé, c'est la charité, et quand l'agapé regarde une personne, c'est l'agapétos, c'est le bien-aimé. Quand vous dites à quelqu'un, vous êtes mon bien-aimé, hein, vous voulez dire, vous êtes celui que j'aime d'une manière très particulière, que j'aime au-dessus de tous les autres. C'est ça que ça veut dire. Et donc Jésus est le fils bien-aimé du Père en qui l'Esprit a été donné en plénitude. Et parce que l'Esprit a été donné en plénitude dans le Christ, il a les sept dons du Saint-Esprit. Ayant les sept dons du Saint-Esprit, les sept dons du Saint-Esprit se réalisent en lui à travers les béatitudes évangéliques. Et c'est à la croix où Jésus vit pleinement des béatitudes évangéliques. C'est une très belle manière de contempler le mystère de la croix du Christ, de regarder comment Jésus, à la croix, vit des sept béatitudes évangéliques. Ça vous suffit ? Parce que je vois qu'il y a une grande feuille de... C'est bien du reste, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Alors nous allons commencer ce soir un sujet particulièrement important. Si vous vous souvenez, la dernière fois, c'était un sujet difficile, l'éthique chrétienne et la théologie morale. C'était particulièrement difficile, je le sais. Si vous avez compris quelque chose, c'est très bien. Mais ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas compris, parce que c'est difficile, c'est un sujet, c'est important, c'est pas du tout quelque chose de secondaire, parce que c'est essayer de comprendre comment il y a une éthique chrétienne, tandis qu'il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Et la grosse question qu'on verra l'année prochaine, y a-t-il une politique chrétienne? Ou y a-t-il une politique d'homme chrétien? Très important cette question-là. Y a-t-il des journalistes chrétiens? Ou y a-t-il des chrétiens journalistes? C'est pas tout à fait la même chose. Je me souviens avoir entendu une fois un professeur de polytechnique qui était un converti, alors il était plein de zèle, et il était venu faire une conférence au Saulchoir, et il avait dit, moi j'enseigne la géométrie chrétienne. J'ai ouvert des grands yeux, qu'est-ce que c'est que votre géométrie chrétienne? Quel est le principe, quel est l'axiome particulier de la géométrie chrétienne? Alors quand je lui ai posé la question, elle a dit, ah, il n'y a pas d'axiome nouveau. Alors je dis donc, ne dites pas géométrie chrétienne, dites qu'il y a des chrétiens qui enseignent la géométrie. C'est très bien. Il y a des chrétiens qui enseignent la géographie, parce qu'il n'y a pas de géographie chrétienne. Parce que la Jérusalem céleste est au-delà de la géographie habituelle, n'est-ce pas ? Donc elle n'est pas inscrite dans une carte. Si elle était inscrite dans une carte, au sommet de l'Himalaya, alors à ce moment-là, il y aurait une géographie chrétienne que seuls les chrétiens, avec un passeport particulier du curé, pourraient pénétrer, n'est-ce pas ? Mais autrement, les autres ne peuvent pas pénétrer. Alors il n'y a pas de géographie chrétienne, il n'y a pas de géométrie chrétienne. C'est quand même très important, il ne faut pas, voyez, abuser du langage. Il faut comprendre, il y a des chrétiens qui enseignent la géométrie, c'est sûr. Alors est-ce qu'ils l'enseignent autrement? Est-ce qu'ils l'enseignent mieux ou moins bien? Ça dépend de la qualité de leur intelligence, pas de leur foi. Mais ils ont, s'ils sont chrétiens, un zèle particulier au point de vue de leur enseignement. C'est-à-dire, normalement, s'ils sont chrétiens, ils doivent être plus miséricordieux, tout en maintenant la justice. Je dis ça pour les examens. Mais ils sont plus miséricordieux, normalement, s'ils sont chrétiens. Parce que l'attitude chrétienne augmente la miséricorde. Mais l'attitude chrétienne ne supprime pas la justice. Alors si on fait passer des examens, surtout quand il y a des concours, hein, des examens sans concours, c'est différent. Mais des examens qui sont des concours, ah, c'est très différent, parce que si vous êtes miséricordieux pour un imbécile, il passera avant un type intelligent. C'est très grave. Parce que c'est pas parce qu'il est chrétien qu'il deviendra intelligent, s'il est un imbécile. N'est-ce pas ? Et peut-être que petit à petit, il deviendra plus intelligent parce qu'il fera plus d'attention, il travaillera avec plus de courage, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui rend quelqu'un intelligent. Il faut bien distinguer les deux. Hein. La foi ne nous donne pas une intelligence nouvelle. La foi nous permet d'atteindre quelque chose que nous n'aurions pas atteint par notre intelligence humaine. Alors vous voyez le sujet de ce soir. Le nouveau statut de la vertu d'obéissance dans l'éthique chrétienne. C'est un sujet très important. Alors, si vous voulez, je vais d'abord vous rappeler ce que c'est que la vertu d'obéissance. Parce que sans doute, vous ne le savez pas. C'est très difficile de savoir ce que c'est que la vertu d'obéissance après Freud. Post-freudien. C'est très difficile. Avant Freud, on savait très bien ce que c'était que la vertu d'obéissance. Mais depuis Freud, on le sait beaucoup moins bien. Je me souviens une fois avoir voyagé avec des freudiens. Ça m'arrivait, c'est pas commode, vous savez, d'être prêtre ouvrier freudien. C'est assez particulier. C'est-à-dire d'essayer d'entrer dans le climat de freudien et puis de dialoguer avec eux. Je l'ai fait, mais j'avais compensé l'histoire en me mettant dans un lieu qui était extrêmement beau. Parce que passer 8 jours avec des freudiens, c'est pas commode. Des psychanalystes. Il y en avait une parmi eux, ou parmi elles, parce qu'il y avait des médecins et des doctoresses. Il y en avait une qui était particulièrement freudienne. Extraordinaire, ça. Vraiment, vraiment. Et passant 8 jours avec elle, j'ai fait, paraît-il, c'est ce que m'ont dit tous les autres, une analyse merveilleuse. Parce qu'au bout de 8 jours, on avait choisi un lieu étonnant que je connaissais bien. Ceux qui connaissent la Suisse savent que la Haute-Engadine est un lieu particulièrement beau, puisque c'est là où Nietzsche a écrit « Comment parler Zarathoustra ». On voit les lieux. Maria, où Nietzsche écrivait cela, et on raconte encore quand Nietzsche passait, les gosses voyaient cet homme qui paraissait complètement perdu dans ses nuages, et les gosses venaient mettre des petits cailloux dans ses poches. Et quand Nietzsche rentrait à l'hôtel, il vidait ses poches de tous les cailloux des gosses. C'est très très joli comme anecdote. On m'a raconté cette histoire en Haute-Engadine. On m'a dit, c'est vraiment comme ça que ça se passait. C'est qu'on le voyait passer, alors les gosses voyaient passer. Bon. Alors moi, je n'avais pas choisi ce lieu-là, j'avais choisi un autre, à Saint-Maurice, où je connaissais un petit chalet qu'on m'avait prêté, j'avais les clés, et ce petit chalet était merveilleux pour faire de l'analyse avec des freudiens. Il faut toujours une compensation. Autrement, on deviendrait en colère. Alors vous comprenez qu'il faut donc une compensation. Et cette compensation, c'était la nature. Et alors, à la fin de ces 8 jours, cette psychanalyste très intelligente, remarquablement intelligente, elle était israélite, des premiers disciples de Freud allemande, à New York. Ça fait pas mal au point de vue conditionnement. Après, je crois que dans une même personne. Et à la fin de l'analyse, elle m'a regardé, j'étais en dominicain, elle m'a regardé, oh, comme vous me rappelez terriblement mon père, qui était rabbin. Oh, Tous les autres m'ont dit après, elle nous a jamais dit un mot là-dessus. Vous voyez que vous avez touché quelque chose de très profond en elle. Et alors elle s'est mise à raconter à ce moment-là comment ça s'était passé. Son père disait toujours, la Bible, c'est la vérité. Elle n'avait pas lu la Bible. Elle avait 14 ans. Elle s'est mise à lire la Bible. C'est elle-même qui m'a dit, et j'ai vu qu'il y avait une contradiction entre la Bible et la science. Et j'ai opté pour la science. Et donc je la remettais au moment de son option. Ce qu'elle avait complètement caché. Elle la remettait devant ce point de vue-là. C'était assez impressionnant, du reste. Parce qu'elle me disait, vous voyez bien, pour une psychanalyste, hein, elle me disait que ce qu'elle touchait, je revenais toujours au jugement d'existence, ce qu'elle touchait était pour elle beaucoup moins vrai que le calcul mathématique qui disait la distance qui existait entre les différentes galaxies et planètes. Vous voyez, ce qu'elle touchait, je ne savais pas du tout si c'était vrai. Alors quand j'ai dit, mais quand je vous donne la main, je suis votre grand-père, ou votre père, ou je suis... quand vous me donnez la main, je ne sais pas si vous existez. Loin. Je ne suis pas sûr, je peux me tromper. Tandis que les mêmes mathématiques, non, je ne me trompe pas. Ça va très loin. Très étonnant. Ben, je ne vous dis pas plus. Hein. Ça, c'est pour vous mettre en face du mystère de l'obéissance, parce que c'est vraiment, je crois, pour Freud, et pour les disciples de Freud, la pierre d'achoppement. Et depuis Freud et depuis les disciples de Freud, c'est vrai que l'obéissance, pour la plupart, reste la pierre d'achoppement. Donc, ça exige de comprendre la manière dont Freud a conçu l'obéissance et la manière dont on doit comprendre la véritable obéissance. Il est bien évident que dans un climat purement moraliste, l'obéissance est souvent très mal comprise. Et donc l'obéissance est comprise comme un été noir. Vous voyez bien. On obéit bêtement, sans rien comprendre. On exécute. L'obéissance ou de cadavère. Vous savez bien, dans l'Évangile, il y a un exemple merveilleux. Quand Jésus est en face de Lazare, et qui déjà s'en mauvais, au dire de Marthe, et Jésus dit, Lazare, sors de là. Et le cadavre obéit. Extraordinaire. L'obéissance du cadavre. Et quand il a obéi, il n'était plus cadavre. C'est sûr. Mais Marthe pensait qu'il était cadavre. Quand Jésus a dit « Lazare sort d'ici », Jésus l'a ressuscité par cette parole. Donc il l'a ressuscité dans l'obéissance. C'est ça qu'on oublie. Il l'a ressuscité dans l'obéissance. S'il avait été un cadavre, il n'aurait pas obéi. Et c'est Jésus qui l'a ressuscité et qui lui a permis d'obéir. Extraordinaire, ça. C'est un lieu étonnant. Alors évidemment qu'il peut se comprendre de deux manières différentes, vous comprenez. On peut comprendre que la parole du Christ redonne vie à Lazare, ou on peut comprendre tout simplement que le cadavre obéit. Eh bien, je crois que c'est ça. Les deux pots de la manière dont on conçoit l'obéissance. On peut concevoir l'obéissance comme ceux qui nous demandent d'abdiquer toute notre intelligence. Pour être obéissant, il ne faut surtout pas penser. Et moins vous penserez, plus vous serez obéissant. Eh bien, je dis l'inverse. pour être vu saint, il faut être très intelligent. Il faut penser. L'obéissance ne peut jamais se séparer de l'acte de prudence. Et la prudence, c'est la lumière au niveau moral. Les anciens disaient que la prudence, c'est la sagesse dans l'ordre pratique. Alors il s'agit de bien voir que l'obéissance peut se comprendre matériellement. Alors, c'est le cadavre qui obéit. Et c'est très vrai, très souvent, on a l'impression que les gens qui obéissent, ils exécutent en disant « on s'en fiche pas mal, on exécute ». Vous voyez, l'obéissance dans l'armée, quelquefois, hein. On voit bien que c'est comme ça. Hein. On obéit, puis c'est tout, parce qu'il faut obéir, il faut éviter la piole, puis c'est tout. Alors, on obéit matériellement. Et puis il y a une obéissance qui devrait être la véritable obéissance, c'est l'obéissance filiale. Où on fait œuvre commune avec celui qui nous commande, celui qui a autorité sur nous. Alors ça c'est très important, vous voyez, c'est très important à bien saisir, parce que je crois que nous touchons là, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait ce sujet, nous touchons là un des aspects peut-être les plus importants dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que nous sommes sous l'influence freudienne, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Nous sommes sous l'influence freudienne. Il s'agit donc de voir ce qu'il y a de juste dans la critique de Freud. Il y a quelque chose de juste. Et ce qu'il y a d'imparfait, quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout. Je me souviens, c'était la réaction constante de ces chers freudiens, que j'aime beaucoup du reste, même cette freudienne qui disait cela, quand je leur disais à propos de l'obéissance, mais je suis un religieux et j'ai fait vœu d'obéissance. Elle dit, oh oui, mais vous, l'obéissance. Ben, on voyait très bien ce qu'il voulait dire. C'est que, de fait, il comprenait que l'obéissance, que d'une seule manière, une obéissance matérielle, il ne comprenait pas du tout que l'obéissance exigeait d'être intelligent. Parce que c'est une vertu morale, c'est une vertu humaine, et même je dirais que c'est une vertu chrétienne. Alors il s'agit de bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'obéissance. Puis après nous verrons qu'est-ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance, c'est une vertu qui est dans la volonté. C'est une vertu qui est à la fois dans la volonté et dans le concupiscible. Et c'est une vertu qui est dans la volonté. Autrement dit, l'obéissance va nous permettre d'aimer plus. C'est le propre de l'obéissance. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Si vous m'aimez, et en observant les commandements, on aime plus. C'est donc une vertu qui est dans la volonté est la source de tout amour. Donc, c'est une vertu qui va permettre à l'amour d'aller jusqu'au bout des exigences de l'amour. Dans l'amour, il y a deux choses. Il y a une union affective avec celui que nous aimons. On aime quelqu'un. On est uni avec lui, on fait qu'un seul cœur avec lui. Et puis, il y a dans l'amour quelque chose de plus, c'est que cette union affective veut une union effective. On veut que celui qu'on aime soit présent auprès de nous, et on veut que celui qu'on aime fasse la même œuvre que nous. Ça, l'important. Quand on aime vraiment quelqu'un, on veut réaliser la même œuvre que lui. On ne se contente pas seulement de dire « Ah, comme je t'aime, bon, c'est pas suffisant. » On veut faire la même œuvre que lui. L'union affective dit simplement qu'on a un seul cœur et l'union effective fait qu'on a la même main ou le même pied. N'est-ce pas ? C'est-à-dire on marche ensemble. On se donne la main et on travaille ensemble. Et on fait la même œuvre. C'est ça l'union effective. C'est la réalisation, c'est l'amour qui se concrétise, c'est l'amour qui s'incarne. Tandis qu'un amour qui reste uniquement un amour affectif, il ne s'incarne pas. Alors celui qui dit « je t'aime beaucoup », et que, dès qu'on demande un effort à celui qu'on aime et qui n'est pas là, on a très bien compris. J'ai très bien compris. Tu m'aimes, mais au fond, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu m'aimes quand c'est agréable pour toi que je suis là. Autrement, tu ne m'aimes pas vraiment. Donc, c'est pas moi que tu aimes. Tu es incapable de faire cet effort pour moi. Donc, tu ne m'aimes pas vraiment. L'union affective implique l'union effective, l'union dans le réalisme. Eh bien, l'obéissance va permettre à l'amour d'aller jusqu'au bout de l'union effective. Et c'est ça la grandeur de l'obéissance. C'est de permettre à l'union affective vraiment de prendre, de s'incarner, de prendre notre sensibilité, de mobiliser notre volonté pour que nous puissions faire la même œuvre que celui avec qui nous aimons. La même œuvre que celui qui a autorité auprès de nous et en qui nous avons confiance. L'obéissance, c'est donc cette vertu. Vertu veut dire justement, comme nous l'avons déjà dit, un habitus, quelque chose qui vient s'ajouter, quelque chose qui vient déterminer la volonté, lui donner un nouveau pli pour permettre à la volonté d'exécuter. La volonté est une faculté qui permet l'exécution. Dans la volonté, il y a deux choses, vous savez. Il y a l'aspect affectif, la volonté est source d'amour, et la volonté est source de réalisation. Pour les anciens, la volonté est source des deux. Pour Descartes, parce qu'on est tous un peu cartésiens, et il s'agit de dépasser Descartes, pour Descartes, la volonté est uniquement une faculté d'efficacité. Par le fait même, si on était parfaitement cartésien, on obéirait sans aimer, qui est une erreur. Parce que la volonté est uniquement une volonté d'efficacité. C'est pour ça que pour Descartes, ne l'oublions pas, il suffit de regarder ce que dit Pascal, on distingue l'homme de cœur et l'homme d'efficacité. Et dans le langage français, c'est resté. Dans le langage français, ordinairement, vous distinguez un homme de cœur, vous dites, oh, celui-là, il a un cœur d'or. Quand on commence comme ça, attendons la fin. Il a un cœur d'or, mais, hélas, il n'est pas très efficace. Vous voyez, il y a toujours le « mais », il n'est pas très efficace. Et puis vous dites l'inverse, ah, celui-là, il est d'une efficacité prodigieuse. Mais il manque un peu de cœur, il manque un peu de miséricorde, il est dur. Vous voyez, on oppose les deux. On oppose l'efficacité nous conduit normalement à quelque chose d'un petit peu dur, hein, parce qu'il s'agit de lutter. Et quand il s'agit de lutter, il faut y aller. Donc il faut être efficace. Mais avant l'efficacité, il y a l'amour. Un amour spirituel, pas un amour sentimental. L'amour sentimental n'a rien à voir avec l'efficacité. C'est l'amour du clair de lune, vous savez bien. Alors il n'a rien à voir avec l'efficacité. Un véritable amour est efficace. C'est même là où on voit si l'amour est vrai. Donc c'est la même faculté, c'est la volonté qui en nous est source d'amour et source d'efficacité. Et pour que la volonté soit pleinement source d'efficacité, il faut cette petite vertu particulière qui est l'obéissance. C'est très curieux que la volonté n'a pas besoin de vertu pour aimer, mais elle a besoin d'une vertu pour l'efficacité. Très étonnant, ça. Ce qui montre que facilement nous faisons une opposition entre le point de vue affectif et le point de vue de l'efficacité. Pour que l'amour soit parfaitement efficace, nous avons besoin de cette vertu d'obéissance. Cette vertu d'obéissance va mettre dans la volonté un pli, une orientation, pour que nous soyons capables de recevoir le commandement, l'ordre de celui qui a autorité sur nous. Et ceci à travers l'amour. C'est le propre de la vertu d'obéissance, c'est de recevoir l'ordre de celui qui a autorité sur nous, qui nous dit « fais ceci ». Et nous prenons l'ordre de celui qui nous commande comme étant la direction immédiate de l'exécution de notre activité. Vous allez tous comprendre cela par un petit exemple. Vous en avez des quantités d'exemples, je suis persuadé. Réfléchissez sur le dernier acte d'obéissance que vous avez fait, ou le dernier acte de désobéissance, n'est-ce pas ? Parce que c'est quelquefois là où on saisit le mieux ce que c'est que l'obéissance, parce que l'aspect négatif. Eh bien, songez au dernier acte d'obéissance, hein, tout simplement, que vous avez pu faire. Vous avez organisé votre journée le matin en disant « Oui, aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, ça, ainsi. » Puis on organise. Hein. Et puis, tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui a autorité sur nous. Que s'agit de nos parents, dans la vie religieuse, qu'il s'agit d'un supérieur, qu'il s'agisse d'un ami qui a un peu autorité sur nous, qui est plus âgé, qui a autorité sur nous, qu'il s'agisse pour l'épouse de rencontrer son époux, n'est-ce pas ? C'est bon, alors, très bien qu'il exerce autorité sur soi. Alors, à ce moment-là, vous rencontrez donc celui qui exerce autorité sur vous et qui vous dit, oh, aujourd'hui, oh, je te demande de faire ça, c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire. Je te le commande, oui, c'est rare que je fasse cet acte-là, mais aujourd'hui, je te demande de le faire. Hein ? Il exerce autorité. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, tout le petit projet que vous aviez fait, selon votre prudence, vous aviez organisé votre temps, selon votre prudence, est complètement changé. Puisqu'il y a une pièce intermédiaire qui arrive. Quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous dites, en réfléchissant, c'est vrai, il faut que j'obéisse. Il faut que j'obéisse. Si vous êtes de mauvaise humeur, ce qui peut arriver, vous dites, oh non, c'est assommant, non, 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 ça va juste à l'inverse de ce que j'ai dit, non, 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 je dois absolument faire ça. Et alors à ce moment-là, on discute, on s'oppose, et l'autre peut arriver à dire, qu'est-ce qui a l'autorité, en définitive, hein? Qu'est-ce qui est responsable? Alors très bien, on exécute. Mais alors on peut exécuter de diverses façons. Vous pouvez exécuter en disant « il a tort ». C'est bien évident, il a tort. Il n'y connaît rien du tout dans l'histoire. Moi, je sais. Jamais je ne ferai comme ça. Mais je suis bien obligé. Alors, vous obéissez matériellement, ce qui n'est pas un acte d'obéissance. C'est ça que Freud regarde. Vous obéissez matériellement en grinçant des dents. Et au-dedans de vous-même, en disant toute espèce de non par rapport à celui qui exerce l'autorité. Vous ne le dites pas tout haut, c'est bien évident. Alors, vous exécutez, et vous dites, il verra bien qu'il a tort. Et vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça rate. Donc, à ce moment-là, vous ne coopérez en rien. Ce n'est pas un acte d'obéissance. C'est tout simplement une exécution de quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Mais ce n'est pas un acte d'obéissance. L'acte d'obéissance implique quelque chose de beaucoup plus profond, parce que ça implique un aspect volontaire, ou de fait, dans cet aspect volontaire, on veut coopérer avec celui qui a l'autorité. Si on ne coopère pas avec celui qui a l'autorité, ce n'est pas un acte d'obéissance. L'acte d'obéissance implique cette coopération. C'est ça qu'il faut saisir. Et ça, c'est très important. Parce que nous ne l'oublions pas, hein, si on essaie de comprendre un tout petit peu ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, on voit bien que c'est là où on voit l'attitude du maître et de l'esclave chez Hegel, chez Marx, et l'attitude du maître et de l'esclave, c'est-à-dire de celui qui a autorité et de celui qui obéit, dans l'Évangile. C'est très curieux. Vous voyez, vous touchez, c'est pour ça que ce problème de l'obéissance, pour moi, c'est quelque chose de capital. Si on veut comprendre un peu ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, c'est là où il faut saisir. C'est du reste normal. C'est voir si l'amour va jusque-là, ou au contraire, si l'amour est pris en échec. Alors je reprends l'exemple très simple que nous connaissons tous, hein, que nous voyons très bien. On dit, on va voir, je vais le faire, je ne peux pas faire autrement. Je le fais, mais je ne coopère pas. Et je fais tout ce que je peux pour que ça rate. À ce moment-là, vous obéissez matériellement. Et vous vous opposez à celui qui exerce l'autorité. Si au contraire, vous obéissez vraiment, vous voulez coopérer. Et vous voulez coopérer pleinement et totalement. Et coopérer pleinement et totalement, c'est essayer d'entrer dans les intentions profondes de celui qui exerce l'autorité. Alors, celui qui exerce l'autorité, il demande qu'il y ait l'autorité. Il exerce l'autorité. Si tu veux, si tu peux, fais cela aujourd'hui. Fais-le à telle heure, c'est absolument nécessaire. Alors, à ce moment-là, vous entrez pleinement dans ses intentions et vous voulez faire ce que lui ne peut pas faire, et vous le faites en entrant pleinement dans ses intentions. À ce moment-là, l'obéissance est une coopération qui fait que, coopérant avec celui qui exerce l'autorité, vous vous élevez jusqu'à la lumière et à l'intention de celui qui exerce l'autorité. Et votre acte d'obéissance est éclairé par l'intention même ou par l'ordre même de celui qui exerce l'autorité sur vous. Vous êtes un avec lui et donc vous vous ennoblissez faisant la même œuvre que lui. Alors on est en présence d'un acte d'obéissance. L'acte d'obéissance, c'est donc accepter l'ordre de celui qui exerce autorité sur nous, c'est d'accepter son ordre, mais l'accepter en faisant que cet ordre devient l'orientation de notre activité, la direction de notre activité, la mesure de notre activité, comme si c'était nous-mêmes qui l'avions découvert. Nous voulons entrer pleinement dans les intentions de celui qui exerce sur nous l'autorité. Et donc nous le faisons avec ce désir, par l'amour, de faire un avec lui. C'est par l'amour qu'on est un avec lui. Et c'est par l'amour que celui qui obéit et que celui qui commande sont un. Et c'est par l'amour qu'on veut réaliser jusqu'au bout ce qui nous est demandé. Et à ce moment-là, il y a vraiment une œuvre commune qui se fait. Et cette œuvre commune qui se fait fait que l'obéissance permet à l'amour d'être efficace. Donc vous voyez que dans l'acte d'obéissance, il y a recevoir l'ordre du supérieur et le recevoir avec intelligence et amour. Avec intelligence, c'est entrer dans l'intention profonde de celui qui me commande, et avec amour, c'est d'être un avec lui, pour faire que ce qu'il me commande soit ce que moi-même je veux réaliser. Je prolonge son geste. Je suis celui qui lui permet d'aller jusqu'au bout, puisque lui ne peut pas le faire. Je le fais à sa place. Au fond, c'est ça que dans tout acte d'obéissance, on devrait arriver à faire. Je le fais à sa place, parce que je prolonge son intention. Il y a donc intelligence et amour. C'est pour ça que l'obéissance ne peut pas se séparer de la prudence, l'intelligence, et ne peut pas se séparer de l'amour que j'ai pour celui qui exerce l'autorité sur moi. Ça, c'est un rappel rapide de ce que c'est que l'obéissance. Alors, comprenons maintenant que dans la philosophie grecque, chez un Aristote, dans son Éthique, chez Platon, l'obéissance s'est réservée aux esclaves, aux enfants et aux femmes. C'est la position d'Aristote. Hein. Je ne dis pas que c'est la mienne, mais c'est la position d'Aristote. Hein. Aristote considère que l'obéissance, c'est le lot des esclaves. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas capables. tout ce que fait le Père, je le fais. Le Père me révèle, me montre tout ce qu'il fait. Jésus ne cesse de montrer que toute son activité est en référence avec la volonté du Père. Et quand il s'agit de la croix, on souligne non ma volonté mais la tienne. Jésus abdique sa volonté propre pour ne rechercher que la volonté du Père. Et Jésus montre constamment dans l'Évangile que tout le mystère de la croix, il le fait dans l'obéissance. Regardez ce petit épisode dans l'Évangile de Saint Jean qui est particulièrement significatif. Quand Judas vient le chercher avec la cohorte et les gardes, Jésus leur demande « Qui cherchez-vous ?» Ils disent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus dit « C'est moi ». Et à ce moment-là, ils reculent, ils ont peur. Et Jésus montre sa toute-puissance. Jésus aurait pu très bien s'évader. Ça n'aurait pas été très difficile. Et Jésus, par obéissance, accepte d'être lié comme un esclave, comme un brigand. Par obéissance, il va jusqu'à la croix. Il meurt dans l'obéissance. Alors, ce qui est extraordinaire, quand je regarde la philosophie grecque, l'éthique d'Aristote, et quand je regarde l'Évangile, je vois qu'au niveau de l'obéissance, c'est totalement différent. La valeur de l'obéissance prend dans l'Évangile une valeur primordiale, alors que dans l'éthique grecque d'Aristote et de Platon, l'obéissance, c'est une vertu, c'est même pas une vertu. C'est un palliatif. C'est pas une vertu. C'est une disposition qui permet à celui qui est imparfait d'être uni à celui qui est parfait. C'est donc la disposition de l'imparfait, de l'esclave, de l'enfant et de la femme, au niveau moral. Alors que quand je regarde l'Évangile, je vois l'inverse. Je crois que c'est là, voyons, saisi le mieux toute la différence entre l'éthique grecque, je ne dis pas que c'est l'éthique humaine parfaite, hein, je dis l'éthique grecque, donc qui dépend de tout un contexte, et puis l'éthique chrétienne. Alors, essayons de comprendre pourquoi, dans l'éthique grecque, nous avons ce mépris de l'obéissance. Je crois qu'il y a deux mépris dans l'éthique grecque qui sont particulièrement importants à souligner. C'est le point de vue de la miséricorde que nous verrons et le point de vue de l'obéissance. Pour moi, c'est les deux points particuliers où l'on voit tout l'abîme qui existe entre l'éthique d'Aristote et l'éthique chrétienne. Alors vous allez me dire, pourquoi saint Thomas a-t-il pris l'éthique d'Aristote si cette éthique d'Aristote est tellement en contradiction avec l'éthique chrétienne? Ça, c'est un autre aspect du problème. Hein. Ici, je regarde, mais c'est intéressant, il faut se poser cette question-là. Mais c'est sûr que l'éthique d'Aristote, l'éthique grecque d'Aristote, c'est l'éthique la plus parfaite qui a existé, hein, au point de vue philosophique. Je crois qu'il n'y a pas une éthique aussi parfaite que l'éthique d'Aristote, au point de vue grec. Et l'éthique chrétienne, totalement différente au point de vue de la vertu. L'éthique chrétienne met la vertu d'obéissance à une place si élevée. C'est pour nous faire comprendre comment l'amour doit s'incarner. Comment l'amour doit arriver à saisir toute notre volonté dans son exercice ultime et dernier d'exécution. C'est en raison de l'amour. Et c'est pour l'amour qu'il y a cette vertu d'obéissance qui prend une valeur si grande. Si on ne voit pas ce lien essentiel entre la vertu d'obéissance et l'amour, je crois qu'on est dans une perspective qui n'est plus du tout évangélique. Mais si vous formalisez l'obéissance pour l'obéissance, hein, et vous considérez que l'obéissance doit être une vertu principale sur laquelle on insiste avant tout, l'obéissance ut cadaver, hein, et que vous voulez avant tout que l'obéissance soit réalisée jusqu'au bout, en oubliant que l'obéissance n'a de sens que dans son lien avec l'amour. Si vous oubliez ça, je crois qu'à ce moment-là, vous donnez une caricature de l'Évangile. Parce qu'alors, vous prenez l'infantilité, c'est comme quand vous confondez la petitesse évangélique et la petitesse psychologique. La petitesse psychologique, on sait très bien ce que c'est. C'est le retour au berceau. Ça arrive. Retour au berceau. C'est chaud, c'est agréable. Et puis, on est bien, on est porté. Alors ça, c'est la petitesse psychologique. La petitesse évangélique, c'est pas ça du tout. La petitesse évangélique, c'est une détermination très nette de ne vouloir que la volonté du Père. Et de n'aimer que la lumière du Père. C'est ça la petitesse évangélique. Et la petitesse évangélique est donc l'exigence ultime de l'amour. Alors vous comprenez, la petitesse évangélique va impliquer l'obéissance. L'obéissance est la vertu de l'enfant. C'est très vrai. L'obéissance est celui qui comprend la grandeur de l'autorité du Père, que c'est une autorité d'amour. La petitesse évangélique, que c'est la vertu de l'enfant, c'est qu'il veut être très uni à son Père et faire pleinement et totalement la volonté du Père. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, pour que la volonté du Père s'empare pleinement et totalement de nous, il faut nécessairement entrer dans cette petitesse évangélique. Alors, à ce moment-là, il faut, et c'est nécessaire, qu'il y ait l'obéissance. Autrement, on ne sera pas un enfant. Vous voyez, c'est le mystère de la petitesse évangélique qui fait comprendre l'importance si grande de l'obéissance. À ce point de vue-là, ce n'est pas si loin de l'éthique d'Aristote. Puisque le propre de l'enfant, c'est d'obéir. Et si nous comprenons qu'il faut la petitesse évangélique à l'égard du Père, à l'égard de notre Père, qui est notre Dieu, à l'égard du Père, qui est le Père du Christ. Alors nous comprenons qu'en effet, l'amour divin fait de nous des enfants de Dieu, et donc en conséquence immédiate de cet amour, il faut que nous vivions cette obéissance. Une obéissance filiale à l'égard du Père. C'est cela qui caractérise l'obéissance évangélique. C'est cela qui caractérise l'obéissance chrétienne. C'est l'obéissance du Fils bien-aimé à l'égard de l'autorité du Père. Et qu'il veut vivre pleinement et totalement de cette autorité du Père. Donc à travers l'amour, à travers la charité, que cette obéissance peut se réaliser. L'obéissance évangélique, elle est donc la vertu numéro un après les vertus théologales. les vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour font de nous des enfants du Père et des enfants bien-aimés du Père. Immédiatement après, pour que cet amour à l'égard du Père puisse se concrétiser, puisse s'incarner, il faut l'obéissance. Mais l'obéissance à celui qui est mandaté par le Père, à celui qui représente pour nous le Père, pas n'importe qui. Nous devons discerner dans notre prudence qui a autorité. Parce qu'on obéit, quelle autorité ? On n'obéit pas à la puissance. Vous allez tout de suite comprendre. Le démon a une très grande puissance, mais il n'a aucune autorité. Vous n'allez pas dire, moi je veux obéir au démon. Non, vous vous laissez tenter par le démon. C'est tout à fait différent. Et la prudence chrétienne, éclairée par la foi, éclairée par le don de conseil, nous fait discerner où se trouve l'autorité et où se trouve la puissance. Parce que quelquefois, ce n'est pas la même chose. Quelquefois, les deux s'unissent. Mais quelquefois, ça ne s'unit pas. Il y a des gens qui ont un grand pouvoir sans avoir aucune autorité. Il y a des gens qui ont une grande autorité ayant très peu de pouvoir. Alors vous pouvez leur échapper comme vous voulez. Ça n'a aucune espèce d'importance pour eux. Ils exercent l'autorité. Une autorité comme un service d'amour. Tandis que la puissance, c'est un désir de domination. L'autorité commandée par la causalité finale, alors que le pouvoir est commandé par l'efficience. Alors vous comprenez bien que la vertu d'obéissance devient en terre chrétienne, à la suite du Christ, une vertu extraordinairement importante. C'est la vertu morale la plus importante. Jésus est mort dans l'obéissance pour nous donner le modèle. Son testament, c'est de mourir dans l'obéissance. Son testament, c'est d'entrer pleinement et totalement dans ce mystère de l'obéissance à l'égard du Père. Si au contraire, vous regardez la philosophie grecque d'Aristote, l'éthique d'Aristote, vous comprenez pourquoi Aristote ne favorise pas l'obéissance. C'est parce que Aristote étudie les vertus comme ceux qui doivent perfectionner en nous notre autonomie pour que nous soyons capables d'opter à l'égard de notre finalité. C'est ça qui commande toute l'éthique d'Aristote. On essaie de découvrir où est le bonheur. Et le bonheur implique justement cette autonomie la plus grande qui soit. Et le bonheur, c'est le développement de l'intelligence dans ce qu'il a de plus profond. Une intelligence au service de l'amour, mais une intelligence qui est tout entière au service de l'amour. Aristote insiste beaucoup sur ce développement de l'intelligence dans les vertus, sur le développement de la prudence. Or, il est bien évident que l'obéissance vécue en terre grecque au temps d'Aristote, ce n'est pas du tout l'obéissance évangélique. C'est l'obéissance de fait des esclaves, des enfants et des femmes. Autrement dit, Aristote n'a regardé dans l'obéissance qu'un aspect de l'obéissance. Un aspect très humain, comment l'obéissance était absolument nécessaire à ceux qui étaient trop imparfaits et qui avaient besoin par le fait même d'un tuteur. Et l'obéissance était la vertu de celui qui était imparfait et qui avait besoin d'un tuteur, de s'appuyer sur quelqu'un de plus grand. Alors, une obéissance de cette manière n'existe que pour les imparfaits. Le parfait n'a plus besoin d'obéir. Et au point de vue humain, c'est parfaitement vrai. Si vous avez une prudence parfaitement développée, mais tous ceux qui sont autour de vous qui n'ont pas autorité sur vous, c'est vrai, quand vous arrivez à une certaine perfection, un certain développement de votre intelligence et de votre prudence, qui sont ceux qui exercent l'autorité au point de vue humain sur vous, mais très peu. Il y a l'État, c'est payer ses impôts. Il y a les gendarmes, oui, c'est très bien. Il y a la police, très bien. Pas grand chose, hein. C'est matériel ces choses-là. Intérieurement, vous êtes libre. Parce que votre prudence vous donne cette liberté. Et c'est parfaitement vrai ce que dit Aristote. C'est que là, si vous développez votre prudence et que vous la développez comme une sagesse, au point de vue humain, comprenez bien, au point de vue humain, vous avez très peu d'autorité. Quelqu'un qui a 45 ans, qu'il essaie de voir loyalement qui exerce autorité sur lui. C'est plus son père. Son père, il le considère avec beaucoup d'affection, mais c'est plus son père. Il a opté. C'est plus son père selon la chair et le sang, vous comprenez bien. C'est le père éternel. Ça, je suis au point de vue humain. C'est plus sa mère. Il a compris les limites de sa mère. Il sait bien qu'il ne faut pas lui faire trop d'angoisse et trop de difficultés. Ce n'est pas le psychologue. Non. Il a jugé exactement ce qu'il pouvait dire et ne pas dire. Alors oui, il y a ceux qui exercent l'autorité au point de vue politique, mais quand on est dans un régime démocratique, l'autorité est très faible. C'est le propre du régime démocratique. Et quand ce régime démocratique se corrompt en un régime de parti, alors l'autorité est très très faible. Parce qu'alors à ce moment-là, vous comprenez bien, c'est le pouvoir, c'est plus l'autorité. Puisque l'autorité, c'est chercher le bien commun. Si vous ne cherchez plus le bien commun, mais vous n'avez plus d'autorité. Si vous ne cherchez plus le bien de l'homme au sens profond, vous n'avez plus d'autorité. Vous avez un pouvoir, c'est très vrai. Alors faites-vous attention, ne vous laissez pas prendre. Ça, il faut faire attention. Alors on ne fait plus d'attention possible, mais au fond, vous êtes vous-même responsable de vos activités. Au point de vue de la prudence. Et vous avez très peu de personnes qui exercent autorité sur vous d'une façon véritable. C'est ça que souligne Aristote. Et là, il a raison dans une éthique qui est l'éthique humaine. Si je passe à une éthique religieuse, alors à ce moment-là, je comprendrai qu'il y a quelque chose de plus. Je dois reconnaître que Dieu est mon créateur et que je suis toujours dépendant de Dieu. Et qu'il y a une loi naturelle à laquelle je dois obéir. Je dois adorer Dieu. Alors là, je comprends que ma grande obéissance est d'adorer Dieu. Premier commandement, adorer Dieu. Aimer ceux qui sont proches de moi. L'exercice de la justice. Tout ça dans la lumière de Dieu. Mais voyez, c'est une autorité qui est toute intérieure. Puisque c'est l'autorité de Dieu sur moi. Et donc c'est une obéissance toute intérieure. Au point de vue religieux, il n'y a pas beaucoup d'autorité visible. ce n'est qu'au point de vue chrétien. Ou alors, le point de vue devient tout à fait différent, parce que ce n'est plus le point de vue de l'autonomie personnelle qui est première. Ce n'est plus le développement de la personne qui est première. C'est l'amour à l'égard du Christ. C'est l'amour à l'égard du prochain. Et donc, à ce moment-là, je comprends que, en vue de cet amour, et pour le développement plénier de cet amour, il faut l'exercice de l'obéissance. Et j'accepte quelquefois d'obéir à mes frères pour montrer que je les aime. Je deviens leur serviteur. Alors on est pris par les deux bouts. L'amour à l'égard de Dieu, l'amour à l'égard du prochain. Et donc l'obéissance devient, dans notre vie chrétienne, une vertu qui devient une véritable vertu grâce à la charité. Je termine. Voyez donc qu'Aristote, même si je le regarde d'une façon... Quand je le regarde d'une façon matérielle, me paraît très loin de la morale chrétienne. Si je comprends profondément l'éthique d'Aristote, comprendre l'autonomie de la personne humaine, ceci reste vrai. Et je comprends que la grâce me demande d'aller plus loin, parce qu'elle me fait fils du Père. Et qu'elle me fait enfant du Père, petit enfant de Dieu. Et alors à ce moment-là, je comprends que mon autonomie peut être dépassée par l'amour. Parce qu'une véritable autonomie ne finalise pas. Elle demande d'être finalisée par l'amour. Et donc je comprends que l'éthique chrétienne va permettre à l'éthique d'Aristote, l'éthique de l'autonomie de la personne, d'atteindre sa plénitude, puisque je découvre la finalité.